C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Je rappelle, on est en compagnie de Christian Page qui nous raconte l'histoire du poltergeist d'Acton Vale, une famille. Donc, après les fêtes, le 6 janvier 1969, témoin de phénomènes bruyants, des phénomènes physiques, des portes qui claquent, des commodes qui se vident, un cadre de la Sainte Vierge qui revole bord en bord de la maison. Il y a un appel qui est fait au presbytère. Le curé, le vicaire Wilfrid Bérard décide de se présenter. Et c'est là qu'on est rendu, Christian. Il ouvre Absolument. La porte et te dit, il n'est pas déçu de ce qu'il voit.
Non, pas du tout. Donc, il entre dans la maison en question et c'est très important de mentionner que les manifestations se produisent un peu partout dans la maison, mais pas forcément dans les pièces où se trouve la petite Guylaine. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu l'élément qui déclenche les manifestations. Mmh. Donc, le père Bérard va monter au deuxième, on entend des bruits, il monte au deuxième, il voit les commodes qui s'ouvrent, il voit les vêtements dans les commodes être jetés pêle-mêle au milieu de la pièce, les garde-robes s'ouvrent, les vêtements sur les cintres sont décrochés, jetés sur le lit, jetés sur le plancher. Alors, on ne sait plus à quel saint se vouer. Toute la petite troupe se réunit éventuellement vers la fin de la soirée. Il est rendu à peu près 22 heures. On a assisté à toutes ces manifestations, meubles qui bougent, qui se renversent. Dans la salle de bain, par exemple, on a été attiré par des bruits de cognement sur le mur. Okay. Lorsque le père Bérard entre dans la salle de bain, il voit des bras accrochée au mur, qui tape contre le carrelage, et soudain, l'une de ses brosses s'envole et va se déposer sur un support à serviette en parfait équilibre. Hein, il aurait fallu plusieurs minutes pour atteindre cet équilibre si on avait essayé de le faire nous-mêmes, mais là, c'est instantané. Vers 22 heures, les gens se réunissent au salon pour faire une prière en espérant chasser ces esprits malveillants. Et puis, sur le coup de 22h, 22h30, les manifestations s'arrêtent aussi soudainement qu'elles ont débuté. Le lendemain, vers 19h, les portes d'armoire se remettent à claquer chez les Saint-Onge. Oui. On appelle encore au presbytère. Le diable est dans la cabane, dit Silvio Saint-Onge. Et là, cette fois, c'est le père l'éveillé qui se rend sur place. Dès le départ, il est frappé par le fait que ces manifestations semblent se déclencher lorsque la petite Guylaine entreprend ses travaux de catéchèse. Pour l'ecclésiastique, il doit s'agir d'une manifestation du malin. Alors, encore une fois, on assiste aux mêmes manifestations, des portes qui s'ouvrent, claquements dans les murs, et le père l'éveillé voit quelque chose de tout à fait étonnant au deuxième. Il y a deux lits dans une chambre d'amis, et il voit les draps se rouler et se dérouler comme s'il s'agissait de stores verticaux.
Mais voyons
et
donc.
Pourtant, la petite Guylaine n'est pas dans la pièce. Vers 22h30, encore une fois, les manifestations s'arrêtent. Le troisième soir, cette fois, les manifestations reprennent de nouveau. C'est le père Bernier qui a une formation scientifique, le père Bernier, et il est convaincu que s'il était témoin à son tour des manifestations, il pourrait trouver une explication rationnelle. Il se rend sur place. Malheureusement, comme ses confrères Bérard et l'éveillé, il est témoin de manifestations extraordinaires. Les meubles de cuisine sont pris soudainement d'une danse de Saint-Guy. Les chaises tournent autour de la table. Les meubles se renversent. Les vêtements sont jetés à bas des penderies et des bureaux. Encore une fois, il assiste lui aussi à ce mouvement des brosses dans la salle de bain. Et au moment où il se retire, il voit tous les flacons placés sur le comptoir être jetés à bas du comptoir, comme s'il était aimanté et attirait vers lui ces objets.
Ah ouais.
Sur le coup de 22h30, encore une fois, on est au salon, on fait une prière. Le chapelet que tient dans sa main la petite Guylaine lui est arraché, ce qui semble confirmer la vision du père l'éveillé qu'il doit s'agir du diable. Mais malheureusement, le lendemain, informés, les parents de la petite Guylaine, les parents naturels de la petite Guylaine, décident de retirer leur enfant de la surveillance des Saint-Onge. Et les manifestations s'arrêtent. Le poltergeist d'Acton Vale n'aura duré trois jours seulement, mais aura donné des sueurs froides au jeune vicaire d'Acton Vale.
Mais là, tu comprends, Christian, que qu'est-ce qui est arrivé de la jeune Guylaine par la suite? Est-ce qu'on le sait, ça? Ouais. Est-ce qu'il y a eu une autre manifestation ailleurs? Moi, je suis sidéré qu'il se soit pas sauvé en courant non plus.
Oui, c'est vrai. Et puis, écoute, ça ne s'invente pas. Monsieur Saint-Onge était celui qui creusait les tombes au cimetière.
Le fossoyeur. Okay.
Le fossoyeur. Donc, c'est chez lui que les manifestations se produisaient. La petite Guylaine, j'ai pu la retrouver à l'âge adulte. J'ai discuté avec elle et elle ne se rappelle pas beaucoup de ces événements-là. Sa mère lui a répété mille fois « Ne t'en fais pas, si t'entends parler de cette histoire-là, ce sont des inventions de curés. » Donc, on a essayé de minimiser la chose. Mais elle garde le père Bernier, qui m'a donné d'ailleurs des photographies qu'il avait prises les soirs de ces manifestations, c'est tout à fait extraordinaire, me racontait que des années plus tard, il avait rencontré Guylaine à l'âge adulte et ils avaient eu la chance d'échanger. Et elle semblait se souvenir à ce moment-là de beaucoup de manifestations. Okay. Et bien sûr, elle était désolée de ce qui s'était produit parce qu'elle n'y était pour rien. Mmh. Et pourtant, les manifestations semblaient pourtant être, je dirais, en accord, en résonance avec ses propres troubles émotifs. Ah. Parce qu'on avait une fillette ici, tu le comprends, qui était sous la garde d'un couple. Elle s'ennuyait de ses parents naturels. Ouais. Donc, il y avait une espèce de tantrum psychologique qui peut-être est la cause de ces manifestations tout à fait extraordinaires.
Christian, merci infiniment de ta présence. On se reparle. Écoute, tes livres, tes podcasts, tes conférences, on va sur christianpage.ca et on va tout trouver là pour entrer en contact avec toi.
Ça, absolument. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci, ça fait grand plaisir. Christian Salut. Page, maître compteur et mon Dieu Seigneur de tabarouette. Je pensais pas qu'une affaire de même t'est arrivée ici.
Sur la messagerie texte, il y a plein de monde qui écrit « Patrick Vaillancourt, ce monsieur-là a vraiment la meilleure voix pour les films d'horreur.
» T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Mes enfants sont brisés. Hein? À l'Halloween, leurs amis se déguisent en Spider-Man, Pat Patrouille, pirate. Édouard, 5 ans, veut se déguiser en explorateur mangé par un serpent. Et William veut se déguiser en arbre.
J'adore!
Pas de danger qu'ils veulent être Batman et qu'on ait accès aux costumes facilement un peu partout. Là. Et en même temps, je les envie. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas cette liberté de choix-là. Retournons en 1987.
Pour une histoire
changer de vie.
À l'Halloween, on avait envie, pour une histoire de soir, de changer de vie.
C'est vrai.
J'avais 5 ans et j'ai pas de souvenir d'avoir pu choisir en quoi je me déguisais. Dans les années 80, quand tu venais comme moi d'une famille pas très riche, tu choisissais pas ton déguisement. Tu prenais ce que tes cousins voulaient plus mettre.
Ouais.
On n'avait pas ça à l'époque, le party expert. Non. La seule fois que t'entendais party expert, c'était un homme dans la quarantaine qui avait un bar hawaïen dans son sous-sol. Ouais. Gérard, c'était un party expert. De toute façon, même si tes parents avaient les moyens de t'acheter un beau costume, il était pas beau, là. On n'avait pas de masque en latex. On avait un masque en plastique cheap qui était aussi coupant qu'un emballage de plastique sous vide, là. Fait que peu importe le personnage que tu choisissais, t'étais ça, mais fondu au soleil. C'était... Oui, t'étais déguisé en turtle, mais tu ressemblais plus au chocolat qu'au ninja. Il y a aussi le fait que, quand arrivait l'Halloween, ma mère adore Noël. Ma mère décore bien à Noël. Pour l'Halloween, c'était correct. Son amour pour l'Halloween. Pour te donner une idée, elle donnait des bonbons, mais juste aux enfants qu'elle appréciait. Donc, elle fermait les lumières, les stores, puis elle appelait les parents des enfants qu'elle aimait. Elle leur donnait le code pour cogner. Et c'était mieux d'avoir le bon code parce qu'elle n'ouvrait pas la porte.
Wow.
Donc, j'avais tout le temps des costumes comme juste corrects, là, et des costumes donnés. Et ces costumes-là vont se retrouver sur notre Facebook de C'est quoi. Vous pouvez même regarder, j'ai donné une photo de mes nombreux costumes. Il y a eu tout d'abord...
C'est extraordinaire.
Il y a eu tout d'abord la Schtroumpfette, dont je vous ai déjà parlé.
Ah, oui.
Il y a eu aussi le déguisement du soldat. Parce que oui, les jeunes, à l'époque, on pouvait entrer dans une école primaire habillé en camouflage avec une fausse mitraillette, puis les profs faisaient « Oh, bonne idée!
» C'est quand même intense, t'avais un masque dans le soldat.
J'avais un masque.
Tu étais terrifiant.
J'étais vraiment vraiment...
C'est-tu une drill, ton gun?
Non, non, c'est vraiment une mitraillette.
OK, OK.
Cool, cool.
Ça a l'air d'une DeWalt.
Chez nous, on avait deux déguisements, techniquement, qu'on gardait dans un coffre en cèdre, parce que dans ce temps-là, oui, tous les costumes sentaient un peu la boulamite. Mmh. On avait la sorcière et le lapin de Pâques. Ma mère a même déjà essayé de nous faire adhérer au concept du lapin de Pâques ensorcelé. Donc, à 5 ans, qu'est-ce que j'avais eu comme costume? J'avais pas eu le choix. J'étais déguisé en marié. Ma mère savait pas en quoi me déguiser. Le lapin de Pâques me faisait pas. Et la sorcière, le costume était trop grand. Fait qu'elle a pris sa vieille robe de mariée à elle. Elle a pris des bouts de la robe de mariée. Elle m'a mis son voile. Et ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que j'avais aussi une perruque très laide. Une perruque qui me faisait peur à l'époque. Et j'en ai parlé à ma mère récemment de cette perruque-là. Mais elle m'a dit, elle était pas laide, ma perruque. Je dis, mais elle était très laide, ta perruque. Elle dit, ben non, c'était mes cheveux. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, c'était tes cheveux? Ben, 10 ans, je m'étais fait couper les cheveux courts. Puis à cette époque-là, ils gardaient tout. Fait qu'ils avaient pris mes cheveux. Puis ils en avaient fait une perruque.
Oh mon Dieu!
Fait que moi, à 5 ans... J'ai passé l'Halloween en robe de mariée de ma mère avec ses cheveux.
Mais Billy, c'est glauque de chez glauque.
Il y a des gens qui sont devenus des tueurs en série pour moins que ça. Fait que ça se pourrait que les costumes de mes enfants cette année soient pas si réussis, puis ça va être bien correct, OK? La bonne nouvelle, c'est probablement qu'en 87, quand j'ai passé l'Halloween habillé de même à 5 ans, j'ai sonné chez Aerosmith, puis ça leur a inspiré cette chanson-là cette année.
T'es comique? De retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Oh, on a un beau petit minou qui arrive en studio. C'est la plus jeune fan de Debout les comiques qui nous rend une belle visite déguisée pour l'Halloween.
Miaou, miaou, je suis un chat. Au début, je voulais me déguiser en personnage de Squid Game, mais mes parents, ils trouvaient que c'était trop violent. À la place, je me suis déguisée en minou.
Ben, très mignon, ton costume. Bon.
Sauf que c'est une maman minou qui a mangé ses bébés chatons à la naissance. Ouais. La nature aussi est violente, papa ouais. et maman. J'aurais pu aussi me déguiser en Barbie, mais je trouve ça bizarre parce que une fille sans emploi, là, ça n'a pas une auto, une grosse maison et autant de vêtements. C'est sûr qu'elle a un compte OnlyFans, là.
Ouais, mais écoute, ma mignonnette, tu viens nous faire un exposé oral.
Mignonnette?
Mademoiselle, tu viens nous faire un exposé oral sur quel sujet? L'Halloween?
Oh là là, que non! Que non, oh que non! Je suis pas venue vous faire un exposé oral aujourd'hui. Je dis aucun exposé oral, encore moins sur l'Halloween. Et ce, pour plusieurs raisons que voici. Donc, en premier lieu, j'ai nullement l'intention de vous en apprendre plus sur cette fête païenne dont les origines remontent à plus de 2500 ans, que l'on appelle l'Halloween. Oh que non, je n'en parlerai pas. Car mon Halloween est maintenant aussi massacré qu'une chanson à l'émission qui s'est chantée, ou qu'une animation de qualité à l'émission qui s'est chantée, ou que le bon goût, la pertinence et l'intelligence à l'émission...
Qui s'est chanté?
Non. L'île de l'amour. Okay. Je suis au primaire, puis moi-même, je les trouve immatures. Mais je m'écarte au sujet de mon pas exposé. Ouais, ouais. De plus, quand ça fait 2 ans que tu mets un masque à tous les jours à l'école, ça fait moins spécial d'arriver déguisé à l'Halloween. Ensuite... Saviez-vous que nous, les enfants, on fait partie du seul groupe d'âge encore non vacciné au Québec? Et on nous demande de faire quoi? Du porte-à-porte d'une maison à l'autre. Je suis pas complotiste, mais il m'apparaît clair que l'Halloween est un complot pour exterminer les enfants. Le seul qui est content de l'Halloween actuellement est mon papa.
Ah oui, hein?
Surtout quand il découvre des pommes avec des lames de rasoir dedans. Non, non, il n'est pas dépressif ou particulièrement barbu. C'est juste qu'il dit qu'avec l'inflation, les lames sont rendues tellement chères, mon père a l'impression de faire la passe. Ouais. En conclusion, voilà pourquoi je ne vous ai pas parlé d'Halloween aujourd'hui.
C'était clair. Mm-hmm.
Merci d'avoir écouté mon nom exposé oral.
Le meilleur des comiques sur demande.
On apprend quelque chose de frappant ce matin, de sidérant.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre libido, mais il y a un lien avec la COVID. Si ça a augmenté, il paraît que c'est normal.
Parce
qu'on est confiné à une certaine époque. Il y a l'Université de Lisbonne et l'Institut Kinsey dans l'Indiana, donc une université en Europe et une aux États-Unis, qui ont parlé à 303 adultes qui sont en couple pour voir l'évolution de leur relation depuis 2020. Premièrement, on a confirmé les gens qui avaient peur de la COVID ont eu une vie sexuelle plus active. Ça, c'est la première
volonté
confirmation.
Volonté de se reproduire, quoi? Je dis n'importe quoi.
Je sais pas
quoi,
si se reproduire. Je sais pas si c'est peur de mourir.
Vivre.
Donc, vivre pleinement. Mmh. Donc, avoir une sexualité très épanouie. Chose certaine, il y a eu vraiment une augmentation de la libido, mais aussi du désir d'explorer dans la sexualité. Et c'est ce qu'ils ont confirmé.
Il y a Jean-Maxime Réaume sur la message de texte qui dit, ben là, t'as plus d'odorat quand t'as la COVID. Ça peut peut-être aider à explorer.
Dans le texte, là, on n'y va pas avec des précisions.
C'est pas des gens qui l'ont lu. C'est des gens qui ont peur de l'avoir.
C'est des gens qui ont peur de l'avoir. C'est la crainte de la COVID. Et parmi les expérimentations que les couples ont dit qu'ils avaient faites durant la pandémie, il y a l'essai de nouvelles positions lors de leur rapport sexuel. Ooh. Il y a le fait qu'ils ont partagé leurs fantasmes. Donc, ils ont vraiment mis des mots sur ce qu'ils souhaitaient. Et beaucoup ont commencé le sexting, soit les sextos coquins. Et donc, on s'écrit des messages. Et là, on imagine qu'on est chacun dans nos maisons, tu sais. On s'écrit des messages coquins, on s'envoie des photos coquines.
Ah, parce qu'il y a, ouais, oui, on y a eu
ceux
des confinements.
Ceux qui étaient en couple, mais qui n'étaient pas nécessairement dans la même maisonnée, ont commencé à s'épanouir à travers le sexting. Ça mène à la question, est-ce que vous avez trouvé votre vie sexuelle plus épanouie et avez-vous essayé le sexting, chers collègues?
Moi, je voudrais bien. J'en ai même parlé hier à ma blonde.
Oui, puis?
Je dis, ça te tenterait-tu que je t'envoie des textos coquins? Et elle m'a répondu, si tu veux.
Ah! Et donc, la porte est ouverte, mais tu sens pas qu'il y a beaucoup de désir.
Zéro
de
même.
OK, parfait.
Moi, j'ai pas remarqué de différence dans ma vie sexuelle pendant la COVID.
Mais de là, ton chum, là, il travaillait à Paris dans la dernière semaine.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes envoyé des petits messages de « j'ai hâte que tu reviennes ».
Peu importe ce que tu textes de sexy, il répond « lol
». Non, mais je te dis, on se texte pas de façon générale. On s'appelle même pas, on n'est pas de même dans les communications.
Ouais.
Oui, c'est ça. On fait pas ça, mais j'ai jamais vécu de sexto que j'ai reçu.
As-tu déjà envoyé une photo coquine?
Jamais. Jamais. Billy, c'est dommage. Hein?
Jamais sexto. J'ai vécu en tournée.
Ouais. Oui, en tournée, crime.
Vous appelez-vous ou textez-vous ou tu peux passer...
Une photo de toi qui sort de la douche.
Non, je te dirais que ça m'est arrivé de faire des tentatives, tu sais, genre, c'est la nuit, je suis couché, elle est couchée, et là, les enfants dorment, et là, tu fais, t'es couché.
T'es habillé comment?
J'imagine que t'es légèrement vêtu. Elle fait, non, je me mets en pyjama, mais on va dormir, là. Fait que la porte se referme. Je sens pas cette ouverture textuelle.
Toi, Valérie Roberts, tu nous poses la question, peux-tu y répondre?
Est-ce que ça expliquerait le disque dur proche de ton ordinateur? Semble prêt à être détruit.
Sinon, j'ai toujours aimé ça. Je trouve ça le fun.
Vous le faites?
Autant les textos que les photos. Oui, nous, on le fait, puis je le demande aussi.
Ah oui?
Je demande d'en recevoir, j'en envoie.
Texto, photo?
Oui, tout le kit.
Vidéo?
Moi, honnêtement, le cloud est rempli de trucs qui pourraient vraiment nuire à ma carrière.
Mettons, je prends ton cellulaire-là, tu stresses.
Non, parce que je les élimine au fur et à mesure.
Okay.
Si tu vas sur mon Google Photo, je suis vraiment nerveuse.
Alors, je lance un appel à des pirates informatiques. Non, c'est pas vrai. Sinon, il y a plusieurs sur la messagerie texte spontanément qui écrivent « Fuck all » comme Monsieur le juge. Ça n'a rien changé
drôle.
Ma vie sexuelle, la COVID. Mais visiblement, pour certains, ça a été profitable.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.